proposé l'accélération du plan de rénovation du quartier du village.
Oui.
Quelles sont les priorités
C'est ce plan qui a été encore reporté d'un an. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il n'y avait pas urgence. Enfin, je veux dire, quiconque connaît le quartier du village sait qu'il y a urgence à rénover le quartier pour le bien-être de ses habitants. Donc, voilà, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail puisque les Persanais connaissent leur quartier. Donc, il y a une urgence absolue et une indignité totale de ceux qui avaient les responsabilités aujourd'hui par rapport à la situation de ce quartier dans un certain nombre d'endroits, d'immeubles, de places. Et donc, il y a une urgence absolue à agir. Donc, je demanderai là, en l'occurrence, il s'agit de Val-d'Oise Habitat, je leur demanderai d'agir dans les plus brefs délais et de prendre toutes les dispositions et toutes les mesures pour agir le plus rapidement possible. Et tout ce que je pourrais utiliser comme levier institutionnel en termes d'appel à la solidarité des pouvoirs publics seront utilisés, croyez-moi.
Abordons maintenant le volet de votre programme consacré à l'emploi, au développement de l'activité économique et du commerce local. Vous affirmez que l'emploi local doit être une priorité et que le développement territorial doit s'appuyer sur la transition écologique de l'économie. Pouvez-vous nous résumer les principales initiatives que vous proposez pour y parvenir ?
Eh bien, nous recruterons localement. Donc voilà, hein, je rappelle que la mairie de Persan est un employeur. Donc nous discuterons bien évidemment avec les entreprises. Hein, je réunirai aussi l'ensemble des commerces, des entreprises qui composent notre territoire pour les sensibiliser à cette question. Là encore, j'ai envie de dire, il va être beaucoup question de volontarisme dans les 6 prochaines années à Persan si nous sommes élus, si je suis maire. Avec notre équipe, nous allons être volontaires et plutôt que d'attendre que les choses se passent et de gérer à la petite semaine comme c'est le cas actuellement, et encore la gestion, je suis gentil, il faut aller provoquer les situations pour rendre les choses possibles. Donc là, ce sera le cas. À la fois, nous prendrons notre responsabilité en tant que l'employeur. Il y aura des recrutements d'emplois jeunes et des recrutements tout court qui seront nécessaires localement pour justement remettre à niveau nos services publics. Hein. Donc c'est dans notre programme, c'est en cohérence. Et puis au-delà de ça, évidemment, il faudra aussi sensibiliser, aider, accompagner les employeurs dans le recrutement local et organiser une rencontre. Pourquoi il n'y a pas une rencontre, un forum de l'emploi local à Persan, par exemple? Donc ça, c'est quelque chose que nous mettrons en place dans le cours du mandat. Et évidemment, les moyens des missions locales, de l'antenne de l'école de la deuxième chance intercommunale seront développés, accrus pour qu'on ait plus de place pour nos jeunes, les jeunes adultes notamment, pour qu'ils puissent se réinsérer professionnellement et être formés, enfin voilà, avoir tous les moyens à leur disposition pour l'emploi.
Vous proposez zéro chômeur de longue durée.
Oui.
C'est-à-dire vous engagez cette démarche. Pouvez-vous développer un peu?
Bah, c'est une démarche nationale, non les territoires zéro chômeur de longue durée, qui a fait ses preuves. Donc, dans un certain nombre de départements et régions de France, dans des territoires où l'expérimentation a eu lieu. Et donc, il s'agit de pouvoir l'étendre à Persan. Je sais que la commune de Bouffémont, dans le Val-d'Oise, a déjà demandé en 2019 à pouvoir y participer. Et donc, à Persan, où nous avons un vrai sujet dans ce domaine, en termes de chômage de longue durée, il me semble que aucune autorité étatique ne pourra nous refuser de faire partie intégrante de ce dispositif qui consiste à recruter des personnes avec une structure dédiée créée pour l'occasion, des personnes qui ont été longtemps éloignées de l'emploi et à pouvoir les recruter en assurant un salaire et leur permettre de retrouver justement un emploi et pas des emplois précaires simplement mais des travaux qui correspondent à l'intérêt général, donc dans des services qui concernent soit les travaux qu'il y a à faire dans la commune, la transition écologique. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, surtout si on se dirige vers la transition écologique à Persan. Il y aura de quoi faire ce territoire zéro chômeur de longue durée.
Quel financement pour la création d'emplois jeunes?
Quel financement, c'est-à-dire?
On sait que l'État s'est désengagé, qu'il y a de moins en moins de financement de la part de l'État. Donc, il s'agirait de vrais emplois?
Alors, le désengagement, il est relatif à Persan, hein, de la part de l'État. Il est très relatif parce qu'on est, encore une fois, comme je vous l'ai dit, identifié par les pouvoirs publics comme un territoire où les financements publics sont plus que jamais nécessaires. Et les crises sociales, et notamment les gilets jaunes, sont venues le rappeler à ceux qui l'avaient oublié. Donc, Persan est identifié comme un territoire dans lequel l'État doit s'investir. Voilà, et donc ça dépasse la question des gouvernements. C'est identifié par l'ensemble des responsables publics et, ou des hauts fonctionnaires comme un territoire dans lequel...
Il s'agit d'emplois civiques ou de véritables emplois ?
Moi, je souhaite que ce soit des emplois pérennes. Et bien évidemment, en tout cas, il ne s'agit certainement pas de contrats de 3 mois à 6 mois. Ça, il en est hors de question.
D'accord.
Non, il s'agit d'emplois que je souhaite au moins sur plusieurs années. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ces emplois pour faire aussi des tremplins de formation professionnelle. Donc, c'est sur la même logique que les emplois qu'on a pu connaître dans le quinquennat précédent. La logique, c'est à la fois avoir un emploi, mais aussi que ce soit un emploi qui qualifie les personnes qui l'occupent.
Alors effectivement, à Persan, il n'y a plus de banque.
Voilà, nous sommes non seulement un désert médical, mais en plus un désert bancaire.
Ah oui, comment comptez-vous
Eh bien, le volontarisme, une nouvelle fois, puisque pour le coup, on parle d'acteurs privés, donc bien évidemment, on ne peut pas imposer à une banque de s'installer à Persan, soyons très clairs. Je ne dis pas autre chose. Je dis simplement que il a fallu un peu les bousculer pour avoir, et nous avons fait le nécessaire, nous avons fait les pressions auprès de l'équipe en place il y a quelques temps, avant que ça se fasse, donc on a obtenu un distributeur automatique de billets, mais bon, c'est quand même très insuffisant, et évidemment, la question d'une banque, c'est absolument prioritaire, donc on discutera avec toutes les banques, toutes sortes de banques, les grandes banques traditionnelles, et puis d'autres, et voilà, l'objectif, c'est d'avoir, à la suite de ces 6 ans, à nouveau, une banque à Persan. On ne peut pas avoir une ville qui a un dynamisme, qui construit sa mixité sociale, qui a un dynamisme de sa population, qui est une population en plus jeune, avec des familles, et être un territoire qui se veut attractif, et ne pas avoir des services appropriés. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire entendre, et qui peut résonner, y compris à l'oreille de banques privées.
Souhaiter transformer les arcades en pôle commercial avec une supérette.
Oui.
Il y avait déjà
une
supérette avant. Comment ?
ED.
Oui, il y avait ED, ouais.
Voilà. Donc le panneau d'ailleurs est toujours présent.
D'accord.
Donc là encore,
en
vous voyez, quand je dis qu'il y a une forme de.
Au niveau des arcades, ont eu beaucoup de difficultés, beaucoup ont fermé.
Exactement. Et donc, vous voyez que les panneaux d'il y a un certain nombre d'années sont toujours présents. Ça montre aussi une forme de gestion de la ville qui n'est plus souhaitable. Donc, en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est d'aller chercher, encore une fois. C'est pour ça qu'il faut absolument un maire dynamique, qui ait l'énergie et l'envie pour le faire, et qui en ait la compétence et qui maîtrise un peu les dossiers. Il va falloir aller chercher. Les acteurs ne manquent pas dans ce domaine. Un acteur qui est spécialisé dans la supérette de proximité. Et donc, ça, encore une fois, c'est possible. Hein. Ça a pu se faire, je crois, proche, pas loin de nous. Ça peut se faire à Persan, surtout qu'encore une fois, Persan est une ville qui atteint quasiment les 13 000 habitants, du moins donc, officiellement. Maintenant, on peut le dire. On est à 12 665 habitants, très, très précisément. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait pas besoin de cette supérette. Et évidemment, la supérette, ce n'est pas le seul enjeu. Il faut également des commerces de proximité qui soient plus diversifiés, encore une fois. Donc nous, on est très contents qu'il y ait des commerces, des restaurateurs qui s'installent, hein, qu'il y ait des pizzerias, des kebabs, etc. Mais il faut que Persan sorte du tout fast-food. Puisque il en va de la santé de la population, on ne peut pas dire à la fois qu'on fait de la santé un enjeu prioritaire et se satisfaire qu'il n'y ait que des fast-foods. Et en même temps, du coup, il faut penser à une offre de restauration plus équilibrée et tout en restant une restauration qui soit accessible sur le plan tarifaire, bien évidemment. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Et nous, on veut mettre en place...
Ah, pardon.
Excusez-moi, je suis un peu long, mais il faut aussi qu'il y ait une épicerie en vrac, par exemple.
Voilà.
Voilà, une épicerie en vrac,
La question que je voulais vous poser.
Oui, je vous écoute.
Comment fonctionnerait cette épicerie ?
Je pense que tout le monde voit, se représente ce à quoi on fait référence quand on parle d'épicerie en vrac maintenant. Je pense que Voilà, on en a. Il y a des coins épicerie en vrac dans le secteur. Hein. J'y suis allé encore récemment. Donc, bon, bah voilà, ce sont des épiceries où il y a le moins d'emballage possible. On vient avec son petit sac et on prend directement la matière. On actionne un levier et le produit en question descend dans le sac. Donc, ça évite de multiplier les emballages. Donc, ça réduit les déchets. Donc, c'est ça tout l'intérêt des épiceries en vrac. Et puis. Le but, bah, c'est justement aussi que ce soit moins cher. Donc là, il y a aussi un...
Elle serait gérée par une association, la municipalité ?
Franchement, toutes les possibilités seront étudiées. Évidemment, la meilleure sera celle qui fonctionne et qui permettra de réaliser le projet dans le plus rapidement possible. Donc évidemment que si ça peut se faire d'un point de vue associatif, ça aurait un vrai intérêt, notamment d'un point de vue tarifaire et social. Et puis en termes de projet de société, je pense que ça pourrait être une belle démarche, mais ça peut se faire aussi avec un acteur privé qui a un savoir-faire, une expertise dans le domaine et qui trouve qu'effectivement c'est intéressant de proposer ça à personne. Donc voilà, encore une fois, moi j'ai pas de hier dans ce domaine, ça peut être tout type d'acteur.
Est-ce qu'elle pourrait être associée avec l'épicerie sociale et solidaire que vous proposez de créer ?
Bah, c'est une excellente proposition que vous faites là. Hein. Donc,
oui. Bah oui, je participe.
Voilà, donc vous avez compris comment on fonctionnait. Hein. Les citoyens sont des acteurs à part entière du fonctionnement de la ville. Donc merci de l'avoir intégré dans cette interview. Et donc effectivement, ça pourrait être transversal dans la même structure commerciale, l'œuvrac et l'épicerie sociale et solidaire.
Alors, un des accords avec la municipalité sortante, il s'agit de la ZAC du chemin Herbu.
Oui. Donc,
quelles sont vos propositions ?
Mais nos propositions, c'est de rééquilibrer le projet. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont attachées à ce qui est une offre commerciale nouvelle, complémentaire de celle qui existe localement. Donc ça, on peut partager ce constat. Ensuite, il peut y avoir effectivement la nécessité d'accueillir un certain nombre d'entreprises. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir le projet, notamment un certain nombre d'implantations. Il y aura au moins une, en tout cas, parce que pour l'instant, c'est quand même un échec, ce projet de Jacques du Chemin Herbu. Tous les ans, M. Bazin revient nous dire au vœu que ça y est, on va voir ce qu'on va voir. Puis ça fait un certain nombre d'années qu'il nous fait le coup et il se passe toujours rien. Donc déjà, bon, il faut constater l'efficacité relative de ceux qui tiennent le système en place depuis 25 ans dans la commune dans cette matière en termes d'aménagement. Et puis il y a une nécessité pour nous, et ça c'est un grand engagement écrit noir sur blanc, c'est d'avoir préservation d'un tiers de la surface où devait se tenir un ZAC, un tiers en termes de surface agricole et maraîchère, puisque on parle de circuits courts, on parle de nouveaux circuits d'approvisionnement et d'une certaine autonomie aussi en termes de plan alimentaire territorial des territoires, des intercommunalités et des villes. Et donc bah, nous on s'inscrit là-dedans, on le dit clairement, hein, moi je vais être un maire écologiste aussi, donc il faut qu'on arrête de bétonner, d'artificialiser massivement tous nos espaces. Je rappelle que ça avait été l'objet aussi de recours, d'associations environnementales et puis de citoyens, de persans par rapport à ce projet-là. Et que le projet a été retoqué plusieurs fois, y compris par les commissions d'aménagement commercial, qu'elles soient départementales ou régionales. Donc il y a un vrai sujet à ce qu'on arrête de tout bétonner, de tout urbaniser partout et à rendre la ville plus respirable. Donc là encore, il s'agit d'être cohérent avec nos engagements.
Vous affirmez vouloir une ville pour toutes les générations. Comment et par quelle nouvelle initiative, alors que la ville semble bien être dotée en structure et association pour toutes les générations ?
Bah, je vous ai fait la démonstration du contraire s'agissant de la petite enfance tout à l'heure. Mmh. Non, en fait, ce n'est pas le cas pour toutes les générations. Il y a un certain nombre de choses qui existent pour les jeunes, mais là encore... Moi, je rencontre beaucoup de jeunes ou d'acteurs qui travaillent avec les jeunes qui ne me disent pas qu'il y ait tout ce qu'il faut pour les jeunes, bien au contraire. Donc là, il y a un grand rattrapage à faire. Je vous en ai parlé tout à l'heure en termes de réussite, d'accompagnement des jeunes, notamment sur le plan professionnel et sur l'emploi, parce que c'était la question de l'emploi. Mais ça vaut aussi pour la création d'un pass culture pour les jeunes, pour avoir des structures aussi pour que les jeunes puissent se retrouver, mais encadrés par des adultes et des gens professionnels dont c'est vraiment le métier. Et voilà, donc il y a tout un tas de choses. Il y a faire en sorte que la MJC soit à nouveau un lieu dans lequel les jeunes vont. Donc ça, c'est un travail à faire à la fois avec en lien avec les jeunes eux-mêmes, avec les ceux qui travaillent avec les jeunes et la MJC, puisque c'est un super voilà, équipement. La MJC, on en est très fiers dans notre ville. Donc il n'y a pas de raison, alors qu'on a cette belle MJC, que les jeunes n'en profitent pas plus. Donc il y a beaucoup à faire là-dessus. Il y a beaucoup à faire dans l'accompagnement aux familles, notamment pour les aider, notamment pour aider les parents dans l'accompagnement avec les modes de garde. Je sais que ça, c'est un grand sujet sur lequel on a envie d'intervenir. Il y a aussi pour les seniors à faire mieux et plus, à élargir, notamment en lien avec le CCAS, les dispositifs, à améliorer l'accès notamment aux repas trimestriels. Je parle sous le contrôle de Michèle Rinaldelli dans ce domaine, puisqu'elle le connaît très bien. Il y a beaucoup à faire pour faire en sorte de repartir des besoins, notamment en mettant en place un conseil des seniors, un conseil municipal des jeunes et des rencontres évidemment intergénérationnelles. Il y a beaucoup à faire pour que les générations se sentent bien les unes les autres et qu'elles vivent mieux les unes avec les autres. Donc nous y veillerons, puisque ces conseils n'existent pas pour l'instant. D'où notre proposition est de faire en sorte que pour tout ce qui est sorti de l'isolement, parce que voilà, souvent il y a quand on est senior, des fois il arrive pour des raisons très diverses qu'on puisse être un peu plus isolé. Bah là aussi l'accompagnement humain, il doit être renforcé, développé, et on doit aussi aider à la mobilité. Donc je sais que évidemment qu'il y a un système de navette qui existe, ce qui est très bien. On a toujours poussé toujours été favorable à ça, on l'a redit notamment en 2014, mais du coup il faut là encore élargir les possibilités, faire en sorte aussi que tous les bénéficiaires potentiels soient au courant de ce système, et puis repartir des besoins, je vous le dis, en termes de sortie culturelle pour les seniors. Ça c'est très important, que ce soit pour les événements ou les sorties. Là encore, il y a beaucoup à faire pour que ça corresponde vraiment aux besoins et aux moyens des seniors et que chacun s'y retrouve.
Vous en faites le constat, Persan a une vie associative importante et dynamique. Elle dispose de nombreuses structures culturelles renommées telles que la MJC, la médiathèque, le conservatoire de musique et l'Agora. De nombreuses activités et manifestations sont proposées et accessibles aux habitants, ceci dans tous les domaines. Que souhaitez-vous améliorer dans tous ces domaines? Quelles sont les principales initiatives que vous prendriez si vous étiez élu?
Eh bien, on portera de 30% l'effort budgétaire supplémentaire sur la mandature pour les associations et le mouvement sportif. C'est écrit, je crois, noir sur blanc, mais si ça ne l'est pas suffisamment, je le redis. Donc il y aura un effort budgétaire sans précédent pour aider et développer notre super mouvement associatif et sportif à Persan. Nous sommes très fiers, qui est à la fois, qui permet d'être un cadre d'épanouissement pour les jeunes et pour toutes les générations, et puis d'être aussi une pépinière de talents. Donc on est fiers d'avoir des talents dans plusieurs domaines sportifs à Persan. Mais aujourd'hui, l'aide est variable et inégale, je le dis. Donc il y a vraiment un rattrapage à faire, notamment en matière d'équipement. Ce n'est pas toujours une question de subvention, hein, mais il y a aussi en matière d'équipement, d'aide aux événements. Et puis à créer justement une force citoyenne de bénévoles, multi-associations, multidisciplinaires, hein, et puis ça peut être des gens qui ne viennent pas d'un club en particulier, mais juste des habitants qui ont envie de se porter bénévole. Et donc moi je vais faire un appel au bénévolat à l'ensemble des citoyens de Persan pour qu'ils viennent renforcer notre mouvement associatif et sportif qui a vraiment besoin, puisque j'ai eu des alertes, hein, de plusieurs responsables associatifs et sportifs sur cette question du bénévolat, qui est une énorme question de l'engagement de tous. Si vous voulez que vos enfants ou vous-même, vous puissiez avoir les meilleures conditions pour exercer votre passion, vos loisirs ou votre activité sportive en compétition, il faut pouvoir pour cela compter sur votre engagement bénévole. Et donc évidemment que je serai le premier à donner l'exemple en participant moi-même à tenir des ronds-points s'il le faut pour les organisations de courses cyclistes par exemple. En tant que maire, je dois donner l'exemple et je le ferai, donc, et j'appellerai l'ensemble des citoyens à s'investir, puisqu'il en va du bien-être de la ville et de son dynamisme et de l'épanouissement de chacun.
Vous proposez la création d'un pass culture pour les jeunes 18 à 25 ans.
Oui.
Pouvez-vous nous le décrire?
Oui, alors contractualiserait avec un certain nombre d'acteurs culturels locaux, territoriaux. On aura des partenaires, en fait, hein, pour dire les choses simplement, soit des cinémas, des lieux d'exposition, pourquoi pas des librairies quand ça existe, ou des musées, enfin voilà. Donc là encore, c'est quelque chose à faire, à construire, mais voilà, c'est ça l'idée en tout cas, et c'est de faire en sorte que les tarifs soient plus accessibles pour les jeunes de 18 à 25 ans. C'est ça l'idée de ce pass avec ses partenaires, que ce soit très local ou plus régional.
Alors vous proposez également la création d'une résidence d'artistes.
Oui. Alors on a la chance d'avoir...
Par qui ? Par la municipalité, association ?
Ben, ça peut être un appel à projet, à manifestation d'intérêt, donc délégué à une association qui en aurait la charge, ça se fait. Moi j'aime bien cette idée en tout cas, donc ce serait plutôt sous cette forme-là. Évidemment, ce serait avec une convention d'occupation temporaire d'un lieu dédié dans la commune. Donc tout ça, ça s'organise, hein, ça existe ailleurs, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire à personne. C'est simplement après une question de qui est capable de porter ce projet, est-ce que ça peut répondre à l'envie d'artiste, ça j'en doute pas un seul instant. Du coup, voilà, en plus on est une ville qui est quand même bien positionnée géographiquement, qui est au carrefour de pas mal de territoires. Donc ça peut être intéressant pour beaucoup d'artistes qui sont déjà, enfin voilà, qui ne nous ont pas attendus pour déjà venir à Persan et pour faire des rencontres, organiser des choses, que ce soit des écrivains, des photographes, des artistes de toutes sortes. Et on en a déjà, heureusement, beaucoup, beaucoup vu à Persan. Donc, encore une fois, cette résidence d'artistes serait intéressante pour Persan et correspondrait à une vraie aspiration. Ça permettrait aussi à des personnes de les rencontrer, de faire des expos, voilà, de monter des projets qu'on n'avait pas forcément l'occasion de monter quand c'était simplement des passages d'artistes. Donc c'est tout l'intérêt d'une résidence, c'est d'apporter de la stabilité et voilà, de faire éventuellement permettre en tout cas l'éclosion de nouveaux projets et de nouvelles initiatives dans la ville.
Dans le cadre de l'intercommunalité, qui a un rôle important, quelles sont vos propositions et objectifs prioritaires ?
Dans l'intercommunalité, notre objectif, c'est de faire de l'aménagement durable, c'est d'avoir l'objectif zéro artificialisation nette du territoire du Val-d'Oise à l'échelle, l'horizon, pardon, excusez-moi, 2026. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, zéro artificialisation nette ? Ça veut dire que en 2026, on n'aura pas consommé plus d'espace naturel, agricole ou de terre que ce n'est le cas actuellement. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est un équilibrage entre renaturaliser si possible certains nombres de sites, si on veut en construire d'autres, si on veut en construire sur d'autres, ça veut dire densifier plutôt que d'élargir toujours plus et de faire de l'habitat diffus et de l'habitat toujours plus en expansion, alors qu'il y a une autre façon de penser l'habitat. Donc voilà, c'est tout ça en fait, la zéro artificialisation nette. Le fait de dire que nous on veut qu'il y ait un tiers de la ZAC du chemin herbu qui soit dédié à l'espace agricole ou maraîcher, c'est fait partie de cet objectif. Donc il faut, c'est pour ça que je dois dire d'ores et déjà que nous donnerons l'exemple évidemment à Persan pour que ce soit un objectif atteignable à l'échelle du Haut-Val d'Oise. Et puis évidemment il y a le plan de continuité cyclable dont je vous parlais à l'échelle intercommunale, il y a le soutien évidemment au centre, enfin à la piscine intercommunale qui est toujours un lieu extrêmement important là encore pour l'activité sportive et l'épanouissement de tous. Et puis il y a le contrat local de santé, la question de la santé comme on disait, la question des mobilités intercommunales, l'intercommunalité pardon, et une autorité très importante pour la question des bus, et puisque moi je veux la gratuité des bus dans le Haut-Val d'Oise au cours de ce mandat. Donc là encore, je solliciterai nos partenaires de l'intercommunalité, et beaucoup plus largement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour qu'on puisse réaliser cette promesse. Pourquoi je n'ai pas dit toute la semaine et seulement le week-end ? C'est justement parce qu'il faut un équilibre entre le financement de l'amélioration de la desserte et le financement de cette mesure de gratuité le week-end. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un palier, de commencer par le week-end aussi pour voir si ça pouvait vraiment être un choc, comment dire, d'attractivité pour les transports en commun, et si ça permettait d'être une vraie alternative justement aux tout voitures, puisque comme on est dans le périurbain, la voiture prend une place très importante. Donc si le bus est facilement accessible, qu'il y en a plus et qu'en plus c'est gratuit le week-end, pour beaucoup d'entre nous ça peut être un vrai comment dire, levier pour prendre beaucoup plus les transports en commun dans l'interco et justement diminuer l'usage de la voiture et puis surtout favoriser des mobilités plus aisées pour tout le monde, quel que soit son porte-monnaie.
Vous proposez la création d'un plan alimentaire territorial. De quoi s'agit-il ?
Bah, au même titre qu'on veut des circuits courts, des circuits d'approvisionnement avec du maraîchage ou des agriculteurs locaux. Alors quand je dis locaux, c'est pas forcément... Déjà on a la chance d'avoir une ferme à Persan, d'ailleurs ça me permet de le rappeler.
Mmh. Il y a une ferme, oui.
Il faudra un dialogue justement avec nos exploitants agricoles locaux. Mais au-delà de ça, il y a tout autour de notre territoire, notamment dans le parc naturel régional du Vexin ou dans l'Oise, des agriculteurs ou des paysans et donc ou des producteurs maraîchers, donc il y a là encore des circuits courts à faire. Le plan alimentaire territorial doit inclure cette question de l'approvisionnement, notamment de nos espaces de restauration collective, de nos cantines, de notre cuisine centrale à Persan, qu'il faudra elle aussi, je crois, étendre et renforcer au cours du prochain mandat. Donc le plan alimentaire territorial, c'est faire en sorte que on améliore la qualité et l'approvisionnement. Donc c'est sur ces deux aspects que le plan devra être décliné, et la qualité, bien évidemment, bah, c'est le plus possible d'alimentation bio ou d'agriculture raisonnée au minimum, et c'est de faire en sorte que on diminue l'impact carbone de nos circuits d'approvisionnement.
Vous souhaitez également la mise en place d'un plan de protection des berges de l'Oise.
Oui, là j'interpellerai pour le coup plus le conseil départemental pour que son intervention soit plus régulière sur les berges de l'Oise pour ce qui concerne notre territoire, et donc notamment pour faire en sorte qu'on arrête tout phénomène d'urbanisation ou de bétonnage des berges quand il y a des velléités de le faire, et puis pour aménager ces berges pour qu'elles soient le plus possible en harmonie avec le biotope, l'écosystème, et pour que voilà, il n'y ait pas de problème en termes écologiques sur les berges de l'Oise, et pour qu'elles soient aussi protégées pour un usage d'agrément, c'est-à-dire pour les gens, en fait, pour qu'on puisse tous se balader sur nos berges de l'Oise et de façon le plus agréable possible. Donc, et puis aussi pour limiter maintenant la juste exposition, l'accumulation de déchets. Donc ça, c'est une urgence aussi de traiter la question de la propreté de nos berges. Notamment, j'ai eu le plaisir de participer à une initiative qui venait de jeunes de notre commune, dont nous sommes très fiers, des jeunes citoyens qui ont pris l'initiative par eux-mêmes, qui nous ont montré l'exemple, et donc on est allé avec eux nettoyer il n'y a pas longtemps les berges de l'Oise. Ça m'a permis d'être encore plus, sachant que j'ai été déjà beaucoup par Michel Rinaldi, qui elle-même fait beaucoup de randonnées, qui connaît bien les berges de l'Oise, à cette question de leur protection et de leur préservation. Donc c'est quelque chose à la fois qui est un joyau naturel pour nous, enfin voilà, on est heureux de bénéficier de ces berges, et donc il faut tout faire pour les préserver, les protéger.
Comment financerez-vous la mise en œuvre de votre programme alors que chacun connaît les difficultés financières des communes et de Persan ?
Oui, c'est la grande question. À chaque fois, on se demande quelles sont les marges de manœuvre, et c'est bien normal. Les marges de manœuvre, comme j'ai commencé à le dire, quand même plutôt l'expliciter sur plusieurs aspects de notre programme, elles existent. Elles existent à différents échelons. La commune n'est pas toute seule. Et encore une fois, nous ne sommes pas une ville pour lesquelles les dotations ont tendance à le plus diminuer. C'est vrai nationalement ce que vous dites sur la réduction du périmètre d'intervention. Encore une fois, ça dépend des sujets et des domaines d'intervention. Et puis, au-delà de ça, je crois aussi à un effet levier. S'il y a un financeur qui arrive, ça permet de faire confiance à d'autres financeurs. Donc, encore une fois, tout ce qu'on promet ou tout ce qu'on propose, et quels que soient nos engagements, derrière, ça fait partie d'un équilibre général qu'on a déjà évidemment travaillé. Donc le financement, il est tout à fait équilibré, et il correspond encore une fois qu'à des besoins absolument évidents et nécessaires, et qui sont finançables sur la durée des 6 années, bien évidemment. Donc tout sera engagé, et on peut aussi réorganiser certains financements. Donc il s'agit aussi de revoir certaines priorités budgétaires dans les dépenses de fonctionnement, dans les dépenses que faisait l'équipe, le système en place depuis 25 ans. Donc évidemment qu'il y a des dépenses qui seront réaffectées à d'autres projets. C'est pas forcément toujours des dépenses nouvelles. C'est une question aussi de nouvelles organisations. Et encore une fois, c'est une question aussi de faire appel à des financeurs qui n'ont jamais financé grand-chose à personne. Et le premier d'entre eux, l'Union européenne, qui n'est pas un petit acteur institutionnel, puisque l'Union européenne, je le rappelle, finance le développement de l'ensemble des régions de l'Union européenne et finance aussi, par effet de rattrapage, les inégalités territoriales. Et donc, je ne comprends pas pourquoi notre intercommunauté, comme notre commune de Persan, n'est pas aujourd'hui bénéficiaire de plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros chaque année de l'Union européenne, alors que l'on est une ville qui est prioritaire pour l'Union européenne. Donc là, ne vous inquiétez pas pour cet aspect. On ira chercher ces fonds qui sont absolument indispensables pour financer nos projets et qui nous seront extrêmement utiles. Et donc, nous avons les relais, notamment au sein du Parlement européen avec Emmanuel Morel, pour faire ce travail.
Je vous rappelle qu'en 2020, pour 2020, les financements de la part de l'État dans le cadre de la politique de la ville ont baissé de 5%.
Oui.
Voilà. Et qu'au niveau de l'Union européenne, quand même, il faut avoir beaucoup de trésorerie parce que les délais sont très longs.
Voilà, donc il est temps de s'y mettre.
Les financements.
Il est temps pour personne de s'y mettre.
Je pense.
Enfin, y aura-t-il cette fois-ci un deuxième tour? Si oui, une alliance est-elle envisagée entre les deux listes de gauche pour ce deuxième tour?
Ouais, c'est quelque chose que j'envisage. Bien sûr, encore une fois, il faut créer les conditions de l'alternative. Donc créer les conditions de l'alternative à Persan, ça passe par le rassemblement de tous ceux qui veulent cette alternative. Donc moi, ça me paraît logique qu'on se tende la main si on veut, dans le cadre du second tour, créer les possibilités d'un changement et de changer d'équipe municipale. Donc moi, j'y suis favorable.
En étudiant vos programmes, les programmes des deux listes de gauche, il y a beaucoup de points communs quand même.
Bien sûr. On partage beaucoup, donc c'est pour ça qu'il est tout à fait envisageable de faire les choses ensemble.
Position commune.
C'est pour ça que je suis favorable au rassemblement pour changer les 6 prochaines années dans notre commune.
Sébastien Lombard, merci.